Bonnefeuille. Quarante romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, l'exercice de la médecine, de Laurent Sexic, aux éditions Flammarion.
Je n'ai jamais attaché à ma personne assez d'importance pour être tenté de raconter aux autres l'histoire de ma vie. Il a fallu qu'il se passât beaucoup de choses, une somme d'événements, de catastrophes et d'épreuves telles que rarement génération d'hommes en aura vécu de pareilles, pour me donner le courage de commencer un livre qui eut pour personnage principal, ou plus exactement pour centre, mon propre moi. Rien n'est plus éloigné de mon dessein que de mettre ainsi en évidence, sinon en qualité de commentateur du film qui se déroule. Le temps produit les images. Je ne me borne pas à un mot d'explication. Et ce n'est pas tant mon destin que je raconte que celui de toute une génération. Notre génération singulière est chargée de destinée, comme peu d'autres l'ont été au cours de l'histoire. Chacun de nous, même le plus infime et le plus humble de tous, a été bouleversé dans son être intime par les soubresauts volcaniques qui ont presque sans relâche agité notre terre européenne. Et moi, confondu dans la multitude, je ne me reconnais que ce seul privilège, en ma qualité d'Autrichien, de Juif, d'écrivain, d'humaniste et de pacifiste. Je me suis toujours trouvé présent là où ces secousses sismiques se produisaient, avec le plus de violence. C'est le livre de Stefan Zweig, le monde d'hier, souvenir d'un Européen. Parce que c'est un livre immense, c'est un livre qui m'accompagne depuis le début de l'exercice de la littérature, mais surtout parce qu'il a un rapport particulier avec ce livre-là et dans la genèse de ce livre. Lorsque Stefan Zweig écrit « Je n'ai jamais attaché à ma personne et c'est d'importance pour être tenté de raconter aux autres l'histoire de ma vie », c'est un peu l'histoire... non pas de ce livre, l'exercice de la médecine, mais de l'histoire dont s'est composé ce livre. C'est-à-dire qu'au début, j'attachais malheureusement assez d'importance dans l'écriture de ce livre à ma personne, ou du moins à mon expérience de la médecine, pour tenter de vouloir raconter l'expérience d'un médecin et l'expérience peut-être d'un médecin devenu écrivain. Et à la fois une vocation médicale et à la fois une vocation littéraire interdite. Et finalement, ayant écrit une centaine de pages de ce roman qui était une tentation autobiographique à l'âge de 53 ans, me souvenant peut-être de cette phrase de Zweig et surtout sentant dans ces 100 pages de l'exercice de la médecine personnelle qu'il manquait quelque chose, me souvenant que dans mes romans, je m'étais plongé dans la peau de Stefan Zweig, je m'étais glissé dans la peau d'Albert Einstein, là je me glissais simplement dans la mienne, et il manquait quelque chose à mon histoire. Il manquait le souffle du siècle, il manquait le mouvement de la traversée du XXe siècle. Il manquait aussi de la distance avec aujourd'hui. Et ayant écrit ces 100 ou 150 pages, les ayant adressées à mon éditeur, qui les avait acceptées d'ailleurs, les trouvant plutôt encourageantes, je lui ai écrit cette phrase par un mail un soir, réalisant ce qu'allait être la vérité de ce livre à venir. Ce n'est pas du tout cela que je veux écrire, c'est l'histoire de Léna, une jeune femme cancérologue aujourd'hui à Paris, descendant d'une longue lignée de médecins, depuis la Russie tsariste jusqu'à aujourd'hui en passant par Berlin des années 20 et Moscou des années 50, qui tous connurent un destin tragique, et elle ne veut pas entrer dans la légende.
Alors elle, vous venez de le dire, c'est Léna, on est à Paris en 2015, votre roman commence ainsi et on vous écoute.
Le plus souvent... quand elle avait terminé sa matinée de consultation, le docteur Léna Kotev avait le sentiment d'avoir dit la vérité. Pas toute la vérité, bien entendu, mais la plus grande part audible par l'interlocuteur assis face à elle et dont la vie allait basculer en l'espace d'un instant. C'était comme si le destin s'exprimait par sa bouche. Elle observa l'homme qui venait d'entrer dans son bureau pendant qu'il accrochait son bras dessus sur le porte-manteau. Les petites lunettes rondes, dont la monture s'inclinait légèrement, la longue mèche de cheveux ramenée sur le dessus de son crâne dégarni, lui donnait un air bonhomme. Elle le voyait toujours tiré à quatre épingles, vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche, porté avec une cravate à rayures ou à pois, seul élément de fantaisie qu'il semblait s'autoriser. Que savait-elle de lui ? Rien. Ou pas grand-chose. À chaque entretien, il se présentait comme l'époux de Madame Dargan. Se tenait silencieux, presque immobile, ses yeux de myope grands ouverts, écoutant les propos sur l'avancée de la maladie de sa femme. Pour la première fois, en 6 années, il avait franchi seul l'entrée de la consultation du service de cancérologie. L'homme s'était mis à fouiller nerveusement son pardessus, finit par y trouver dans une poche intérieure une feuille de papier et traversa la pièce, sa feuille à la main. Léna réalisa qu'elle ignorait jusqu'à son prénom. Elle avait dû connaître sa profession, sans doute l'avait-elle interrogée longtemps auparavant sur l'âge de ses enfants, comme elle veillait toujours à le faire. Elle se souvenait de quelqu'un de plus alerte, les premières années. Elle se dit que l'épreuve l'avait usée. L'homme hésita sur le choix de la chaise, s'apprêta à s'asseoir sur la plus proche du bureau, là où d'ordinaire s'installait son épouse, préféra celle, en retrait, où il avait coutume de se placer. Une fois assis, il déplia la feuille, la parcourut lentement de haut en bas. Le léger tremblement de sa main la faisait frissonner comme une voile sous le vent. « J'ai écrit mes questions pour ne pas les oublier », finit-il par articuler. Elle le pria de ne pas s'inquiéter, elle allait tout lui expliquer. S'il demeurait des interrogations, elle y répondrait point par point. L'essentiel était qu'aucun problème ne restât en suspens. Elle ouvrit l'épais dossier au nom de Madame Dargan, déjà longuement consulté la veille au soir, le feuilleta rapidement, le referma. Puis elle entama son exposé par la remarque qu'elle connaît toujours en préambule dans ces cas-là. « Sachez d'abord, cher monsieur, que nous nous battrons jusqu'au bout. » Elle poursuivit du ton le plus neutre possible par le long exposé des résultats des derniers examens, puis dressa l'énumération de ce qui avait été tenté, de ce qui avait échoué, intervention chirurgicale, cure de chimiothérapie, séance de radiothérapie. L'homme acquiesçait de temps à autre d'un mouvement du menton, les yeux rivés au sol, comme si affronter le regard de son interlocutrice était au-dessus de ses forces. Elle conclut en disant « L'instant est douloureux, monsieur Dargan. Il faudra du courage, vous n'en manquerez pas, j'en suis certaine. » Elle se souvint que récemment, son confrère, le docteur Villemain, s'était flatté devant elle de ne pas s'embarrasser de nuances face au patient, d'annoncer la gravité des faits dans un compte-rendu exhaustif, presque martial. Risques encourus, effets indésirables, complications possibles, les chiffres, pourcentage de survie et de récidive, espérance de vie, les faits, seulement les faits, toute la vérité. Et quand la dernière heure était venue, il l'annonçait de but en blanc. Elle se sentait incapable d'agir ainsi. Manquait-elle de courage ? Quand le combat conduit de haute lutte avait été perdu, l'annonce d'une issue dramatique prochaine lui coûtait de plus en plus. Elle avait l'impression d'arpenter les allées d'un cimetière, ses mots creusant des tombes avant la mise en terre. L'homme leva les yeux dans sa direction et pour la première fois, la regarda en face. « Il y a encore un espoir, n'est-ce pas ? » dit-il d'un filet de voix. Il y avait toujours un espoir. Elle avait vu des situations se retourner subitement sans que l'on comprenne précisément pourquoi. La médecine n'était pas une science exacte, bien entendu. Ces chances-là étaient minces, extrêmement minces. On devait redouter le pire. L'homme reprit sa feuille, lut à voix basse. Ses lèvres remuaient doucement et laissèrent échapper un murmure. « Vous avez cessé la chimiothérapie, » dit-il en relevant la tête. « Vous n'administrez plus que de la morphine. Comment cela pourrait-il aller mieux ?» Elle assura que les douleurs dont souffrait Madame Dargan seraient calmées par les perfusions. On pouvait encore augmenter les doses. L'homme eut un moment d'hésitation, puis lâcha. Mais comment va-t-elle guérir si la chimiothérapie est arrêtée ? Léna répéta ce qu'elle venait de dire. Aucune drogue n'agissait plus. Avait-il saisi ce que cela signifiait ? Tous deux devaient impérativement parler le même langage. En cet instant, plus encore que par le passé. On pourrait peut-être opérer, suggéra-t-il. Madame Dargan avait déjà été opérée par 3 fois. Cette hypothèse, comme toutes les autres, avait été discutée avec les chirurgiens, avec les anatomopathologistes. Cela n'avait pas été retenu. L'homme replia la feuille en 4, la rangea dans sa veste. « Alors, que comptez-vous faire ?» L'équipe médicale accomplissait tout ce qui était en son pouvoir. Tout serait entrepris pour que Madame Dargan ne souffre plus. C'était là l'essentiel aujourd'hui. « Elle est très courageuse. Elle peut tout supporter, vous le savez, n'est-ce pas ? C'était la première fois qu'il allait lever la voix. Ses joues et son front avaient rougi, il cherchait l'approbation dans son regard. « Alors pourquoi ne faites-vous rien ? » poursuivit-il. « Vous baissez les bras alors que vous nous enjoigniez de ne jamais renoncer ?»« Nous avons fait notre possible, monsieur Dargan. »« Vous parlez au passé, je veux savoir comment vous comptez procéder à l'avenir. Pourquoi ne me le dites-vous pas ?»« Je vous le dis, monsieur Dargan, » répliqua-t-elle avec des accents de détermination et de sincérité fin qui lui donnaient des hauts le cœur. « Non ! Vous dites ce que vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas opérer. Vous n'allez pas poursuivre la chimiothérapie. » Elle baissa les yeux. « Vous m'annoncez qu'il n'y a plus rien à envisager ? » balbutia-t-il. « Je ne veux pas dire exactement cela, monsieur Dargan, » dit-elle en rassemblant ses forces. « Mais vous ne dites que cela. Chacune de vos paroles, vos silences même, le disent. » « Ce que je vous explique, monsieur Dargan, c'est qu'il faut s'attendre au pire. » L'homme se leva de sa chaise et arpenta la pièce de long en large. Elle l'entendit murmurer quelque chose comme pour lui-même, après quoi il se rassit. Et la voix plus forte, l'air déterminé, il déclara. « Le pire est possible, mais il reste toujours une chance dans l'existence. Accordez-nous cette chance, vous disposez de moyens ultra-modernes, vos appareils coûtent des fortunes, la médecine fait des progrès fulgurants, des révolutions technologiques. Pourquoi ma femme n'en bénéficierait-elle pas ? Vous la connaissez depuis 6 ans, elle est la bonté incarnée. Moi, à la limite, vous pourriez m'imposer cela, je n'ai pas toujours été à la hauteur. Mais maintenant, je suis irréprochable, nous formons un couple dans l'adversité comme à nos débuts. Alors, pourquoi voulez-vous tout gâcher ? Est-ce que nous n'avons pas toujours suivi à la lettre ce que vous nous avez recommandé ? Est-ce que vous nous avons fait quelque chose de mal ? Est-ce que nous vous avons refusé un traitement ? Non, non et non. Et pourtant, ce n'est pas facile. Même vous, vous n'êtes pas facile derrière vos airs parfois. Je ne devrais pas vous parler ainsi, mais fini pour fini, je vous le dis. Votre bonté cache quelque chose. Vous êtes toujours disponible, comme si vous faisiez la charité. Mais je n'en veux pas, moi, de la charité. Je veux de l'espoir. Et puis, il y a quelque chose qui ne colle pas chez vous. Je vous le dis comme je le pense. Tous les docteurs, jusqu'au plus grand professeur, ont sur leur bureau un cadre avec une photo. Oui, j'ai vérifié tous. Des photos de leur femme, de leur fils, de leur père. J'en ai vu un professeur émérite, il avait un portrait de son chien. Mais vous, non. Pas le moindre polaroïde. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose ? Il s'interrompit. Comme s'il avait pris conscience d'être allé trop loin, puis il reprit. Mais oublions tout ça. L'essentiel est que ma femme guérisse, point final. Allez, reprenez-vous, docteur. Je suis prêt. Simone est prête. Nous pouvons tout endurer. Nous allons nous battre. Un silence tomba sur la pièce. Monsieur Dargan retrouva un air sombre et résigné. Léna rouvrit le dossier, parcourut quelques pages, releva la tête, répéta ce qu'elle venait de dire, et tout en parlant, elle sentait que la force de conviction lui manquait. Sa voix sonnait faux. Cet homme la rendait immensément triste. Elle n'éprouvait pas de telles sensations autrefois, du moins pas d'une si grande intensité. « Je suis à vos côtés, monsieur Dargan, » conclut-elle. « Promettez-moi que ma femme sortira vite des soins palliatifs. C'est mauvais pour son moral et moi, vous avez vu, cela m'en rend terriblement nerveux. »« Elle y restera le moins de temps possible, » répondit-elle. « Avez-vous d'autres questions ?» L'homme hocha la tête, puis il ajouta dans un murmure. « Vous savez, docteur, nous ne vous voulons aucun mal. » « Je sais, monsieur Dargan, ne vous excusez pas. » Elle se leva, fit le tour de son bureau, serra la main de l'homme, le raccompagna, lui tendit son manteau, ouvrit la porte, dit au revoir. Tandis qu'il s'en allait, elle jeta un regard sur la salle d'attente, la vie aux trois quarts pleine. Plusieurs paires d'yeux se tournèrent en sa direction. Elle sourit un peu machinalement, referma doucement la porte, alla se remplir un verre d'eau, s'assit, demeura un instant sans penser à rien, but, se releva, rouvrit la porte, regarda sa fiche, lança « Madame Boisseau, s'il vous plaît. » Puis, Léna Kotev regagna son bureau. Parvenu au bas de la colline, Pavel Alexandrovitch lança son cheval au galop. Il lui restait une quinzaine de verstes à parcourir. Le vent de l'est traversait ses gants de cuir et lui gelait les doigts. Sa pelisse en mouton le réchauffait à peine. C'est l'histoire du début, c'est-à-dire c'est aussi comment on devient écrivain, mais je l'ai exprimé par un roman. C'est comment on est médecin. Alors en effet, il y a toujours des espèces de chocs entre les plaques de vocation, de monde aussi différent, parce que le monde de l'écriture est à la fois si proche et si distant du monde de la médecine. Ce sont deux univers totalement différents, mais le monde médical est un univers en soi, avec son langage, avec ses règles, avec ses rois, avec son peuple. Le monde de la littérature est beaucoup plus solitaire, évidemment, mais il y a aussi ses maîtres, il y a aussi son petit peuple, il y a les personnages. Et c'est passé d'un monde à l'autre qui finalement a créé ce livre. L'ambition d'être porté par ce monde, d'entrer dans ce monde, doit être aussi importante que celle de guérir les hommes, parce qu'il s'agit aussi de la même chose. Il y a tous ces points communs que je vois avec l'exercice de la littérature. C'est choisir les mots, c'est prendre la place d'eux, c'est être dans la douleur. Évidemment, il n'y a pas les mêmes enjeux personnels. L'autre est moins présent. Et en même temps, voilà, il y a quantité de personnages vivants et de fantômes autour de soi. Les deux sont dans la distance, et les deux sont empêchés d'être dans la distance. Moi, pour écrire l'exercice de la médecine, j'ai dû arrêter l'exercice de la médecine. Je n'arrivais plus à passer d'un monde à l'autre. Je n'arrivais plus à passer de la fiction à la réalité. Il y a le risque de se perdre dans les deux cas. Et je ne crois pas qu'il faille voir le médecin comme l'écrivain, comme un monstre froid, détaché des personnages. Voilà, on ne demeure pas éternellement sous contrôle. Il s'agit aussi, quelque part, si l'on va au fond de l'intention, de sauver des mondes. Il s'agit, pour ma part, d'avoir ressuscité Stefan Zweig. Il s'agit de redonner une existence aux perdus du siècle. Il s'agit de redonner des voix à Edward Einstein, le fils d'Einstein. Là, il s'est agi de faire d'une jeune femme et de ses alliés, de construire une épopée. C'est un retour permanent aux origines. Alors, le roman est un retour à ma vocation première, qui était d'être écrivain à 18 ans. Qui était le fait que ma thèse, qui était consacrée au cancer des poumons, était dédiée à Stefan Zweig et à Romain Gary déjà à l'âge de 25 ou de 26 ans. Mais il y a cet exercice-là qui n'est pas forcément une vocation, mais qui rentre dans le même cadre d'appréhender le monde. Sauf qu'il peut être plus optimiste, il peut conduire à la guérison. Alors ce livre est le premier qui ne finit pas tragiquement, mais peut-on guérir de cet univers-là? Ça, je n'en suis pas certain. La médecine offre un horizon plus éclairé, plus lumineux. Moi, j'écris dans le silence, sans musique, peut-être pour mieux percevoir l'écho des terres lointaines et des personnages, et s'entendre murmurer à l'oreille ces personnages et les voir vivre. Mais lorsqu'en effet j'arrête l'écriture, il y a cette musique qui, en effet, Schubert, le trio pour piano et cordes opus 100, qui est à la fois plein de majesté, plein de splendeur, plein de grâce.
Merci Laurent Sexic.
Merci.
C'était Laurence Seksik qui présentait son roman « L'exercice de la médecine » à paraître aux éditions Flammarion. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Stéphane Desmonts.